Il est 20h, c'est parti, bienvenue sur Marmite FM, c'est l'heure de la toute nouvelle émission. La sonnerie a retenti, bienvenue à tous sur Marmite FM 88.4 dans cette nouvelle émission de La Marmite. Et oui, vous m'avez reconnu, c'est ma douce voix, c'est le frisé, vous avez l'habitude de m'entendre hein, sur Marmite fait son actu avec Nouradine Hein tous les mercredis de 17h à 18h. Et aujourd'hui, je reviens le mercredi avec une très très grande équipe de 20h à 21h. Et ce soir, on a Sarah dans le studio.
Bonsoir.
Et Sarah, avec toi, bonsoir, excuse-moi déjà de ne pas t'avoir dit bonsoir. De quoi on va parler, Sarah?
Alors ce soir, on va parler dans la rubrique Santé futée des troubles de la personnalité.
Ça a l'air très très intéressant. Est-ce que toi, t'en as des troubles de la personnalité?
Non, moi je suis parfaite.
On va y revenir tout à l'heure. Et dans le studio, on a aussi celui qui se marre, c'est Kevin.
Salut à tous.
Ça va?
Ça va et toi?
Oui, bah nickel. Passez des bonnes vacances.
Très bien, très bien.
Alors toi, avec toi ce soir, de quoi on va parler, Kevin?
Alors de l'impression 3D.
L'impression 3D.
C'est ça. Tout le monde connaît les imprimantes 3D. Mais je vais un peu revenir sur les techniques de production, un peu l'historique, peut-être des choses que vous apprendrez, j'espère.
Ok, voilà. N'en dis pas plus, on va revenir sur ça tout à l'heure. Et on a un animateur, qui arrive, qui fait son grand début à la radio, on peut dire ça, c'est le début de sa carrière radiophonique. Voilà, vous avez sûrement entendu déjà sa voix dans une association qui s'appelle Mute & Play, dont je vous ai déjà parlé plein de fois à la radio, une association de cinéma rambolitaine. Et c'est Olivier, salut Olivier.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors avec toi Olivier, on va parler de quoi aujourd'hui?
Ah, on va parler de notre département, les Yvelines.
Les Yvelines.
Et
ah,
oui,
le
un 7, peu l'histoire
des le Yvelines. 7-8.
Le 7-8, tout à fait. Et d'ailleurs, les Yvelines, avant de s'appeler les Yvelines, avaient un autre nom.
Ah.
Et ça, je vous laisse réfléchir, on en parlera tout à l'heure.
Ok, on parlera de cet autre nom des Yvelines. Voilà. D'ailleurs, si vous le connaissez, et tant mieux, parce que nous, on ne le connaît pas. Et si vous ne le connaissez pas, on va vous l'apprendre. Allez, j'ai envie, maintenant qu'on a fait un peu le sommaire de cette émission, de revenir un petit peu sur ce que vous avez fait au Nouvel An, tiens, parce que c'était il y a déjà 2 semaines, à peu près.
Déjà, et oui.
Comment ça s'est passé le Nouvel An, Olivier?
Ah, moi, j'étais avec des amis, et quelques enfants, et on s'est amusé à Vache qui tâche. La Vache qui tâche.
La Vache, la vache qui tâche.
Vous connaissez où, ce jeu-là?
Non, pas du tout, non.
Non? Ah, c'est simple, hein, c'est... En fait, pour faire simple, on est autour d'une table, et il y a une personne qui dit un mot, qui donne ce mot-là à son voisin, et le voisin, redit ce mot-là, et rajoute un mot.
D'accord.
Oui.
Mais pourquoi la vache qui tâche? C'est que on fait passer un petit bouchon de liège qui est préalablement chauffé, et ensuite, si on se trompe, si on oublie un mot ou si on se trompe de mot, on se met un point noir sur le visage.
Donc on peut compter le nombre de fois que telle ou telle personne s'est trompée.
Alors c'était qui le crasseux?
Combien de fois tu t'es fait tâcher?
Moi, que deux fois.
Que deux fois.
Que deux fois, et j'étais dans les meilleurs.
Dans les meilleures tâches.
Non, il y en a un qui a eu 6 tâches. Donc, on voyait plus son visage.
Il y avait combien de mots le plus long que vous avez réussi à faire?
Ça, je sais plus. On est arrivé au moins à une vingtaine quand même.
Ah, 20 mots.
Ah oui.
20 mots.
20 mots.
Ok. Et un exemple de mots, tiens, par exemple.
De mots?
Ouais, bah oui, de mots.
On parlait beaucoup de chevaliers, parce qu'il y avait des enfants, donc ils parlaient surtout de chevaliers dorés. Mais après, c'était des mots loufoques, des fois. Ça voulait rien dire. La phrase voulait plus rien dire.
Ok, donc ça, c'est la vache qui tâche.
Voilà. Donc, je vous conseille pour la prochaine fois, jouer à la vache qui tâche.
C'est un dérivé de j'ai dans ma valise. Moi, je le connais souvent.
Ah, c'est quoi j'ai dans ma valise?
C'est j'ai dans ma valise, mais ça se dit pas à l'oreille. C'est j'ai dans ma valise, tu dis un mot, et ensuite, celui derrière, il dit j'ai dans ma valise, il dit le mot que t'as dit, et il rajoute quelque chose. Et
d'accord.
Ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un se trompe.
Ok, parce que je connais pas du tout ce jeu. Est-ce qu'on pourrait peut-être le faire à la... Enfin, j'ai dans ma valise, peut-être pas, mais la vache qui tâche, peut-être on pourrait le faire en studio.
Oui, la vache qui tâche, il faut juste dire le premier mot, c'est « je suis la vache qui tâche, sans tâche », parce qu'ensuite, quand on a des tâches, il faut dire « j'ai une tâche ou deux tâches ». Si on se trompe déjà à ça, on a perdu, on se remet encore une tâche.
D'accord. Okay. Eh ben, je te propose, la prochaine fois que tu viendras dans l'émission, on jouera à la vache qui tâche, Olivier.
Je ramènerai le bouchon de Liège.
Voilà, ramène le bouchon de Liège et on va se faire une vache qui tâche et puis on vous mettra toutes les photos sur Facebook. Sarah, toi, t'as fait quoi au Nouvel An ?
Bon, déjà, bonne année à vous tous et bonne année aux auditeurs.
Sarah. Merci.
Pour commencer.
Mais bonne année à toi, Sarah.
Merci.
Plein bonnes choses.
Ouais. Merci. Alors déjà, moi, le Nouvel An, c'était une grosse arnaque.
Grosse arnaque,
on n'a pas pu fêter le Nouvel An cette année, le Noël. Du coup, mes parents ont dit, bon, on va faire un repas de famille pour le Nouvel An. Déjà, quelle déception, parce que j'avais eu plein d'invitations de la part de mes camarades. On est d'accord, Noël, c'est plus famille et Nouvel An, c'est plus avec les amis, la grosse fête.
Ouais.
Donc, mes frères étaient d'accord pour faire le repas de famille, se sacrifier. Et donc, j'arrive pour le Nouvel An et en fait, ils étaient tous partis. Personne n'était à la maison à part mes parents et donc j'ai fini avec mes parents, oui. Donc le Nouvel An à minuit, c'était devant la télé.
devant Patrick
télé,
Sébastien et...
Presque, oui. sur la une avec les artistes de l'année.
D'accord. Bon, ouais,
donc t'as fait le Nouvel An devant la télé, quoi. Mais il y a des gens qui font le Nouvel An.
Avec mon père et ma mère en mode papy et mamie.
Bah, ils étaient contents d'être
ils étaient,
avec toi.
Ils étaient contents, oui. Bon. Ils étaient contents d'être avec moi.
Non, j'avoue que c'est un peu spécial quand même. Parce que pas de faire le Nouvel An devant la télé, parce qu'il y a des gens qui font le Nouvel An devant la télé. Mais par exemple, moi, j'ai fait Noël tout seul avec mes parents. Pareil, donc d'habitude nous on est aussi une grande famille et voilà, mais là chaque frère, chaque sœur était parti avec les copains, dans la famille des copains, dans les belles familles, etc. Et je me suis retrouvé à manger repas de Noël, donc là Noël normalement c'est en famille, mais enfin en général, mais voilà, je me suis retrouvé tout seul et c'est vrai que c'est spécial d'être tout seul avec ses parents quand t'as l'habitude d'avoir tes frères et tes sœurs à côté. Je sais pas Kevin, toi t'as pas de frères, pas de sœurs?
Non, moi je suis fils unique, donc c'est ce que j'étais en train de me dire, j'ai l'habitude. Donc moi, ça me choque pas spécialement, mais d'un autre côté, j'ai plus à manger au final. Je raisonne que
c'est
par intérêt.
Escroc, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as fait toi au Nouvel An?
J'étais en soirée chez des potes. C'était très sympa.
C'était pas chez moi.
Non, c'était pas chez toi. Non.
Tu m'as pas donc t'as compris Julien, c'est avec ses potes, donc voilà.
Mais t'aurais dû me dire, t'aurais pu venir en plus. Et ouais, c'était une soirée très sympa. J'ai revu plein de gens que je n'avais pas vu depuis longtemps. Donc voilà.
C'était petite soirée entre potes, une grosse soirée. Tu t'es couché tard?
Ouais, un petit peu, ouais.
Genre, donne une heure.
Je sais plus, je me souviens plus. Je me souviens
matin,
plus exactement,
23
ouais, vers 3.
Tu t'es couché
vers
à 23h. Kevin s'est couché à 23h. Il n'a pas dit la bonne année en fait.
Je suis parti avant. Non, vers 2-3h.
Ok.
C'est classique en fait.
Bah écoutez, c'est super, ça devait être bien de Nouvel An avec toi Kevin, hein. Puis avec Sarah un peu moins, hein.
Minuit 5 j'étais dans mon lit.
Ça c'est beau, bah il n'y avait plus rien sur TF1 donc elle est partie se coucher. Allez, tout de suite, sans transition, on va s'écouter une musique d'une artiste qui s'appelle Ilona Bolou. Voilà, j'ai rencontré à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et elle a fait une reprise de Michael Jackson. Vous allez voir, on l'a déjà reçue à l'époque dans une autre émission qui s'appelait Factualité, qui s'appelle toujours jour, hein, mais je ne fais plus partie de cette émission. Vous allez voir, c'est une reprise avec une spécialité artistique qui s'appelle le fingerstyle. Je vous laisse découvrir ça et on revient juste après pour parler de santé avec la chronique Santé Futée de Sarah.
Salut, c'est Ilona Bolou sur Marmite FM. Retrouvez-moi également sur ma chaîne YouTube. Thank you.
retour sur Marmite FM 88.4 dans la nouvelle émission de la Marmite. Et oui, si vous venez d'arriver, je m'appelle Julien, je suis frisé et je fais la radio sur Marmite FM et je suis entouré d'une très très grosse équipe. Ce soir, on a Olivier dans le studio. Salut.
Bonsoir.
Olivier.
Salut.
Et toi, tu nous parleras tout à l'heure, tu nous donneras l'anecdote sur les Yvelines.
Tout à fait, Julien.
On a également Sarah avec qui on va revenir sur la santé.
Salut.
Et on a Kevin, le musicien de cette troupe du soir.
Salut à tous.
Et avec toi, on va parler technologie et pas de musique. Ouais. Et on a également d'autres animateurs dans cette émission, dans cette nouvelle émission. On a Adrien, que vous connaissez, celui qui n'attend pas l'inattendu. On a Cindy, le soleil de la marmite. On aura aussi Olivia, qui fait habiller comme une pub sur la radio aussi. On a Thomas, qui est un nouveau, qui a 15 ans et qui lui fera ses devoirs en direct à la radio. On aura également Flora, qui viendra apporter son opinion d'une personne de 20 ans, voilà, et qui nous fera une chronique, attention, la chronique surprise de Flora.
Ah.
Et oui, on aura également Vanessa, qui découvrira la radio. On aura Fred, le technicien, celui qui vous fait toute la programmation sur cette radio, qui viendra aussi faire sa propre chronique avec, avec le Blind Fred. Et je pense que j'ai oublié personne. Je sais pas, est-ce que...
Non, t'as fait le tour.
Je pense que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, si j'ai oublié un des animateurs, je m'en excuse.
Il va t'en vouloir, c'est tout.
Oui, c'est pas grave. Au pire, il fera plus l'émission. Et je le disais tout à l'heure, on allait parler de santé et avec la fameuse chronique Santé Futée avec Sarah. Sarah, c'est quoi le sujet du jour ?
Alors, figure-toi que tu m'as inspiré, Julien. Je ne sais pas vous, mais je le trouve un peu louche, ce Julien. Du coup, j'ai décidé de vous parler des troubles de la personnalité. Bienvenue dans Santé Futée. Alors, je voulais vous parler des troubles de la personnalité, mais avant tout, la personnalité, c'est quoi ? La personnalité, c'est la signature psychologique d'un individu. Alors, pour faire simple, ta personnalité... Elle est faite de ton tempérament, ça c'est inné, tu l'as depuis la naissance, et de ton caractère. Donc ça c'est déterminé par l'expérience de la vie, l'apprentissage. Et on parle de personnalité pathologique quand tu es incapable de t'adapter aux différentes situations de la vie. Vous me suivez ?
Ouais.
Ok. Alors, une personne qui a un trouble psychologique, enfin une personnalité pathologique, elle n'a pas conscience de son trouble. Donc Julien, si tu n'as pas conscience que tu n'es pas normal, ce n'est pas grave, nous on va t'éclairer.
Ah bah, j'attends de voir bon. Ça.
On t'expliquera, Julien.
J'attends de voir ça, parce que tu sais que je me pose beaucoup de questions sur moi-même.
On va y revenir. Alors, les psychiatres ont défini trois familles de personnalités pathologiques. Donc la première famille, c'est la famille des psychotiques. Alors, il y a trois membres dans cette famille. On a les paranoïaques. Donc là, vous imaginez la personne très méfiante, limite, elle t'attend avec un fusil. Qu'est-ce que t'as ? T'as un problème, Kevin ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Mais je te regarde pas.
Ouais. C'est ça.
Elle a pas de fusil, t'inquiète pas.
Donc là, cette famille, c'est les psychos, t'as dit ?
Ça, c'est tous les psychotiques. Donc, ils ont des délires. Donc, lui, c'est le paranoïaque. Paranoïaque, il se méfie de tout le monde. Après, on a les schizoïdes. Les schizoïdes, eux, ils aiment bien être seuls. Ils ont pas beaucoup d'intérêt pour les autres. De temps en temps, ils ont un petit délire dans leur coin. Bon. Et les schizotiques. Ah, oh, vous avez vu, lui, il est bizarre. Vous n'êtes pas déjà dit ça de quelqu'un ? Il est bizarre, celui-là.
Bah, de Julien, oui.
Donc, je te permets pas.
C'est quelqu'un qui a un champ d'intérêt particulier et original. Par exemple, la science-fiction. Il est captivé par la science-fiction, il parle que de ça, et il n'a pas d'amis, ou peu. Donc, ça, c'est une personnalité schizotypique. Donc, eux, c'est les psychotiques. Après, la deuxième MIFA, on va parler d'émotion.
Si, l'émotion.
Émotion.
Espagnol.
Exactement. Donc là, c'est une grande famille, la famille des émotions.
En général, les familles espagnoles, c'est des grandes émotions. Grandes familles.
Donc là, il y a quatre membres. Il y a les antisociales, les sociopathes. Donc, je vous fais pas de dessin. Vous savez, genre violence, pas de culpabilité, mépris, manipulation, sociopathe, quoi. On en entend parler dans Enquête criminelle. Plus fréquent, les borderline. Alors, pour les non-English, borderline. C'est quoi
C'est ceux qui dépassent les bornes des limites.
Voilà, ils dépassent exactement, mais quel English perfect.
Merci, c'est donc, bien que tu soulignes que je parle vraiment bien l'anglais, parce que sur cette radio, on m'entend souvent prononcer des mots comme borderline, mais d'une manière, avec un accent irréprochable, comme tu peux l'entendre.
Ça veut dire
borderline.
J'ai un peu une réputation de mec qui parle pas anglais, tu vois. Donc quand tu dis que je sais traduire, ça me fait vraiment plaisir.
Donc ça veut dire état limite, c'est souvent les femmes. Ouais, bon. Qui ont une instabilité émotionnelle. Souvent
mais ça, c'est pas dû aux hormones, justement, des femmes.
Ah, peut-être que ça joue, mais bon, en tout cas, on le repère plus chez les femmes qui ont une instabilité émotionnelle, une sensation de vie, d'une humeur dépressive. Si tu me quittes, je me tue. Donc c'est vraiment, elles ont une peur de l'abandon et elles menacent de s'auto-mutiler. Elles font des tentatives de suicide répétées. Dans 10% des cas, ça fonctionne. Ouais, elles meurent, ah oui, quoi, de suicide. Et souvent, c'est des personnes qui ont été victimes de violences dans l'enfance, donc d'agressions, de négligence. Alors, un autre membre de cette famille, donc pas les borderline, mais qui y ressemble, c'est les histrioniques. Alors, elle, c'est très théâtrale, elle cherche à attirer l'attention, là, les compliments.
On est à la limite de l'hystérie, c'est ça?
C'est comme hystérie. Bah, ça vient d'hystérie, en fait. C'est les hystériques, quoi, un peu. Enfin, et elle cherche vraiment à attirer l'attention, les compliments via leur apparence physique. Alors, parfois, c'est inapproprié. Je vous raconte une histoire. Donc, vous savez, je suis étudiante en médecine. Donc, à l'hôpital, une fois, il y avait une patiente de 85 ans qui était habillée en mode sexy mamie, c'est-à-dire jupe courte, décolleté, plongeant, ultra plongeant. Donc, bon, je rentre dans la chambre.
Une cougar, quoi. Une cougar ou sexy mamie? Parce que sexy mamie, on est quand même dans la.
Et Julien, c'est pas ton ex?
Non, c'est pas mon ex.
Pourquoi son ex?
Pas encore. Peut-être ma future ex.
Je rentre dans sa chambre, elle me calcule absolument pas. Par contre, là, le médecin arrive, donc un homme, un mâle. Ce n'était pas docteur Mamour, pourtant. Et là, c'était. Docteur, vous êtes tellement beau.
Mais c'est vrai, ça?
Oui, oui.
T'avais vraiment vécu ça?
C'est très théâtral. Oui, en fait, elle était en psychiatrie. Donc, voilà, c'est... Mmh. C'était justement un trouble de la personnalité avec une personne histrionique.
D'accord.
Donc, voilà, pour vous illustrer.
Donc là, on rappelle, pour l'instant, tu nous as donné deux familles.
Voilà, deux grandes familles.
Donc, rappelle juste les deux familles, les deux noms de...
Les psychotiques ont des délires et ceux des émotions, avec les émotions instables, tout ça.
J'aime bien ça, émotion.
Émotion.
Et donc, la dernière, cette famille...
Il faut mieux éviter.
Je vais deviner. Je suis quelqu'un de spécial. Je suis extraordinaire. Je suis magnifique.
Ah, les égocentriques.
Je suis tellement belle.
Narcissique. Ce qui...
Narcissique, c'est parfait. Voilà, donc c'est les narcissiques.
Julien,
la nabilatonique, ça s'appelle, non?
Par exemple. Donc souvent, je passe pour arrogante et prétentieuse, mais je ne sais pas pourquoi. Et en vérité, c'est des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui sont très fragiles. Et en plus, il y a un risque d'isolement social, parce que du coup, les gens ne veulent pas les fréquenter. Donc voilà. Et la dernière famille, je suis sûre qu'il y en a pas mal, c'est les anxieux. Alors, bon, après les psychotiques, les démentionnes et...
Les narcissiques.
Dont les narcissiques. Maintenant, on parle des anxieux. Alors, dans les anxieux, il y a trois types de personnalités, mais leurs noms parlent d'eux-mêmes. Il y a la personnalité évitante. Donc, évitant, c'est ceux qui vont raser les murs. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je suis sûre qu'on pense du mal de moi. Voilà.
Ah, ça, t'as pas
qui
confiance en toi.
Évite les yeux. Voilà, c'est vraiment, c'est tête baissée. T'as pas confiance en toi.
Ouais, mais alors attention, parce que là, quand même, on parle de trouble de la personnalité. Mais
ouais.
Est-ce qu'à partir du moment où t'as pas confiance en toi, t'as un trouble de la personnalité?
Pas forcément, non.
Pas forcément. Il faut quand même le dire. Il faut quand même rassurer ceux qui nous écoutent et qu'on pas trop confiance
en eux. On va les rassurer. Alors, après, il y a la personnalité dépendante. Donc, allez, vous pouvez le dire, on a tous un ami relou qui, de temps en temps, même tout le temps, dit « Je suis trop nulle, je vais jamais y arriver.
Oh. » Bah, on a Kevin dans le studio qui dit toujours ça.
Ah ouais? Ah, je m'en rends pas compte.
Mais, alors, est-ce que t'es incapable aussi de décider par toi-même? C'est-à-dire, genre, entre un t-shirt rouge et un t-shirt noir, tu sais pas quoi choisir.
Ah, mais moi, totalement.
T'as besoin de quelqu'un,
ouais,
quoi.
Moi carrément, je vais peut-être envoyer 3 SMS, 4 MMS peut-être même, des mails pour savoir quel t-shirt choisir entre le rouge et le blanc.
Achète que des blancs.
Oh, moi, c'est tranquille.
Ouais, mais si j'aime bien le rouge aussi, tu vois.
Et
c'est déjà mis le doute.
Et enfin, le dernier membre de cette famille d'anxieux, c'est la personnalité obsessionnelle compulsif. Alors, eux, c'est ceux qui sont consciencieux, c'est ceux qui sont méticuleux, c'est ceux qui sont scrupuleux. Voilà. Et qui ont des émotions contrôlées, hein. Peu de place à la spontanéité, ils sont très droit dans leurs bottes, quoi. Alors, pas de panique si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces troubles, dans l'une de ces familles, donc psychotique, émotionne et anxieux. On a souvent un côté de notre personnalité qui peut s'en rapprocher, mais sans que ce soit pathologique, en fait.
Voilà, c'est pas maladie.
C'est à partir d'un certain seuil, en fait, quand on n'arrive pas à s'adapter aux autres, enfin à la vie sociale, là, ça devient pathologique. Mais toujours pour vous rassurer, il y a 10% de la population générale qui est atteinte de troubles de la personnalité.
Mais ça, c'est hyper, hyper pas rassurant, quoi.
Oui. Ouais. Donc.
Mais donc, attention, génération. Pardon, pas génération, population mondiale ou nationale ?
Les deux, en fait. Enfin, c'est vraiment. Au sein de la population, par exemple au Japon, tu vas trouver plus de troubles de la personnalité d'un certain, certain type,
ouais.
Mais il y en aura quand même un grand pourcentage, donc 10%, 10%. En France, dans la rue, tu te balades, tu peux trouver 10% de la... Enfin, si tu prends 10 personnes, il y en a
Kevin.
Une qui a un trouble
ouais,
de la
Kevin.
Personnalité.
Ouais, je me demandais, du coup, t'as des, en fonction de notre mode de vie, de la façon dont on a grandi, est-ce que tu peux avoir plutôt des schémas qui sont plus... susceptible d'apparaître.
Ah bah oui, puisque j'ai dit que la personnalité, elle était faite de ton tempérament, ton caractère, et le caractère, c'est avec ce qui t'entoure, ton environnement, ça se construit avec ce qui t'entoure. Donc oui, ça joue.
D'accord, mais
d'un pays à l'autre, tu vois, on n'a pas les mêmes.
C'est pas forcément dès la naissance. Enfin, c'est
tu peux le. Il y a aussi une part dès la naissance.
Développer. Ah, on peut le développer non, après.
Il y a aussi une part dès la naissance. Parce que je vous ai dit, la personnalité, il y a une part, c'est dès la naissance, on la change pas. Il y a une petite part normalement où on peut s'adapter ou
qui dès la naissance t'es anxieux, tu sais pas encore ce que tu vas choisir, si tu vas choisir ton père ou ta mère. Non, c'est ça, je sais pas. Comment à la naissance, comment tu peux être anxieux à la naissance? Tu connais pas ce qui va t'arriver, quoi.
Bon, à la naissance, c'est un peu compliqué.
Ou peut-être
là,
la grossesse, c'est ça. Le bébé à l'intérieur.
Le bébé, il ressent. Normalement, voilà, quand t'as une maman qui est stressée, ton enfant, il a plus de chances d'être stressé après ça. Par contre, il y a des études qui l'ont montré.
D'accord.
Chez la souris. On a fait des tests avec la souris, on a vu ça. Bon,
donc, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui ont des troubles de la personnalité autour de vous? Qu'est-ce que ça change dans leur quotidien?
Moi, je connais quelqu'un qui marche que sur les... Quand il y a des dalles, par exemple, il doit toujours marcher dans les diagonales. Enfin, dans les carrés qui sont alignés les uns par... Et des fois, c'est emmerdant pour lui parce que...
Ça, d'ailleurs, c'est un toc. Ça, je crois que c'est un toc, Sarah.
Ouais,
docteur
exactement.
Sarah, c'est un toc.
Exactement, ça fait partie des... Alors, pour parler de toc, il y a plusieurs choses. Mais oui, c'est un trouble... Oui,
c'est
une compulsion.
Compulsif,
ouais. Ouais, non, exactement. Oui, exactement.
Il y a une pièce de théâtre de Laurent Baffy qui s'appelle
Toc
Toc.
Ah, c'est ouais, marrant,
ouais. Ouais, justement. Et donc, du coup, il y a cette pathologie-là dans cette pièce où l'acteur a dû s'approprier ce toc-là et respecter. Enfin, lui, c'est plus marcher sur des lignes. Donc, ça correspond un peu avec les diagonales que
ouais,
tu disais, Kevin. Mais ouais, ça doit être chiant ça dans la rue, comment
ouais.
Tu fais quoi?
Alors c'est en fait on a la compulsion et l'obsession. L'obsession, c'est l'idée, en fait, c'est une idée qui va nous obséder, et si on la fait pas, ça va nous manger de l'intérieur. Alors que la compulsion, c'est vraiment l'action que tu vas faire. Oh, quand j'étais petite, j'avais plein de rituels avant de dormir. Je devais rentrer dans ma chambre en faisant du pied droit. Je devais réciter une formule magique que j'avais entendue dans une radio. Je devais couvrir mon miroir d'une certaine manière pour que les esprits ne passent pas à travers le miroir.
Parce que tu couvres ton miroir la nuit.
Je devais couvrir mon miroir toutes les nuits. Et je devais ouvrir trois fois ma fenêtre. Mais c'est fréquent dans l'adolescence.
Et pour les enfants, ils font ça.
Oui, c'est fréquent. Ça les rassure.
Ça les rassure.
Je trouve ça beau de faire un rituel. Tu rentres dans ta chambre. Peut-être couvrir le miroir, mais je sais pas, tu récites une petite phrase pour te donner la confiance, tu vois, je vais bien dormir ce soir, j'ai bien dormi.
Alors que c'est paradoxal, parce que quand même dans ta chambre, t'es censé être en confiance le plus possible, c'est quand même l'endroit de la maison qui t'est approprié, c'est le tien, quoi. En général, c'est pas tes parents qui vont dans ta chambre.
Mais t'as jamais imaginé qu'il y avait un monstre sous ton lit ou...
Bah bien sûr que si, moi le premier. Même moi aussi j'avais des tocs à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais un vieux toc, j'ai réussi à m'en séparer, hein. On a divorcé, lui et moi. Tout à l'heure, tu disais trois fois, je sais pas quoi, tu faisais un truc trois fois.
Oui, ouvrir et fermer la fenêtre.
Ouais, et ben moi, c'était la porte. Sauf que je la fermais pas, je testais si la poignée était bien enclenchée, mais trois fois de suite. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais peur que le monstre rentre dans la chambre.
Ouais, ça rassure.
Olivier, t'avais des tocs ou est-ce que t'en as encore aujourd'hui, peut-être?
Des tocs.
Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a des tocs? Qu'est-ce que ça change dans sa vie?
Moi, je connaissais quelqu'un. Bon, je le vois plus, mais. C'est qu'il ne pouvait pas voir de match de rugby parce qu'il croyait que dans la mêlée, on parlait de lui.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il voyait des gens c'était le moment de la mêlée.
Ouais, donc la mêlée,
pas
c'est supporter quand deux équipes s'affrontent.
Mais c'était un joueur ou c'était...
Non, c'est quelqu'un qui... non, il jouait même pas au rugby.
Il croyait que les joueurs dans la mêlée parlaient de lui, d'accord.
Le mec ne jouait pas au rugby. Mais ça, c'est une vraie maladie, ça, par contre. C'est pas juste un petit toc que tu peux corriger, je pense.
Mais c'est vraiment bizarre parce que c'est ciblé sur quelque chose en particulier.
Ouais, sur ça.
Oui. C'est bizarre. C'est comme un délire de persécution un peu. On croit qu'on parle de nous. Ouais. Il y a des gens, par exemple, quand ils parlent à la télé, le présentateur pour les informations croit, je suis sûr qu'on parle de moi, je sais qu'on parle de moi.
Il y a un sketch de Gad Elmaleh qui parlait de ça. Il avait appelé France 2, dit excusez-moi, je vous appelle, mais hier, le monsieur a dit merci d'avoir regardé le journal télévisé. Mais non, j'étais tout seul, c'était pas la peine de dire merci messieurs dames, j'étais tout seul.
Mais après, mais tu rigoles, mais c'est pas, il y a des trucs dans la rue qu'on vit. Par exemple, tu cherches ta route. Je sais pas, t'es dans Saint-Quentin-en-Yvelines, tu vois une carte de Saint-Quentin-en-Yvelines au niveau des bus et tout, il y a écrit vous êtes ici. Mais ça, clairement, si t'as cette pathologie, si t'as cette pathologie-là, ça t'aide pas du tout. Tu dis mais je suis suivi, quoi.
Je suis observé.
Au moins.
Surtout si tu traverses la route et tu revois un autre plan et il y a marqué vous êtes ici, mais tu dis oh ils savaient que ils ont vu que j'ai traversé la route.
Mais c'est pire.
Il y a un sketch aussi dans je sais plus quel humoriste, je crois c'est.
C'est Bigard, je crois.
Ouais, je crois. Et il disait ça. Il parle de ça justement.
Soit les paranoïaques, soit certains schizophrènes.
Mais on a une maladie aussi. On terminera là-dessus. On a une maladie dont. Si vous avez envie de voir le film d'ailleurs, n'hésitez pas. Ça s'appelle The Truman Show, c'est avec Jim Carrey. Et c'est la maladie de Truman justement qui est reprise. Et donc dans cette maladie-là, on se croit en fait dans un film en permanence. Donc je vous en dis pas plus sur le film, allez voir. Et c'est une vraie maladie qui existe. D'ailleurs, il me semble dans un stage de théâtre qu'on a fait au Prisme, Olivier, on en a parlé dans un texte qu'on avait lu. Une dame qui allait voir je sais plus, des gens autour d'elle dans sa vie, et elle leur disait oui, je suis sûr que c'est toi le scénariste du film, toi t'es le réalisateur du film. Alors franchement, la saison 1 c'était super, par contre la saison 5 vous avez été un petit peu fort quand même avec la mort de ma mère, etc. Donc cette dame était vraiment malade, ça a généré donc des films, des pièces de théâtre, etc. Pour parler de cette maladie, parce que c'est des trucs qu'on connaît pas forcément, et donc il faut en parler. Mais vous pouvez aller voir le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, dans le studio.
The Truman Show, oui.
Moi, je ne l'ai pas vu.
Non.
Eh bien, écoutez, vous irez le voir et puis on en reparlera.
Bon, voilà. On ira, Sarah, on ira le voir.
Allez, tout de suite, on continue. On va continuer en musique avec ta musique, Kevin. Et ouais, parce que tu es musicien, non?
Oui, j'essaye, oui.
Ah, t'essayes. Qu'est-ce que tu fais comme qu'est-ce que tu fais pour instrument, pour ceux
je
qui ne te connaissent pas?
Je suis batteur.
Ok, donc tu fais de la... Ouais.
Batterie.
Ouais, c'est bien. On va y arriver. Et donc, parle-nous vite fait de ton groupe. Là. C'est quoi, le groupe c'est, tu as annoncé le groupe qu'on va écouter parce que c'est,
on s'appelle AU, A-U. Et donc, c'est un peu du rock alternatif. C'est comme ça qu'on se décrit. Et ça fait donc 2-3 ans qu'on est ensemble. On est 5 en tout. Et on a donc des compositions, pas mal de compositions. On a enregistré un album récemment. Et donc voilà, c'est une super expérience.
Comment s'appelle l'album?
AU.
AU, vous êtes, faut le dire, vous êtes quand même dans l'agglomération, vous êtes sur Versailles.
On est dans l'île de France, Paris en gros, Paris et banlieue proche.
Ok.
Et voilà, on a fait beaucoup de concerts sur Paris. Voilà, encore.
Vous avez gagné la Cigale. Vous avez
on
pas
a,
gagné.
On a joué à la Cigale. On a participé au Fallen Fest.
C'est un gros
festival. Qui était un festival à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Et oui, on a pu aller jusqu'en finale. On avait beaucoup de monde qui nous ont soutenus, donc c'était vraiment sympa comme expérience. C'était vraiment cool. Merci, Julien.
Alors, du coup, tu vas tester, hein, parce que c'est aussi ça, hein, la radio. Là, tu vas lancer. C'est moi qui ai le bouton, mais d'accord, je vais pousser le bouton. Mais
je dois faire une annonce.
Fais-nous une petite annonce radiophonique. Tu vois à peu près comment on fait?
Oui, je vais essayer. Vas-y, bien sûr.
Essaye.
Retrouvez AU sur Marmite FM.
Salut, c'est AU sur Marmite FM.
Sur Mamie FM. Oh là 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 là, décidément, j'arrive vraiment pas à articuler ce soir. Je suis désolé pour cette désannonce la plus moche de toute l'histoire de la radio. Ayou, alors déjà qui a l'accent anglais, et puis Mamie, franchement, c'était vraiment moche. Donc c'était Ayou sur Mamie FM 88.4. Vous êtes dans la nouvelle émission sur Mamie FM, donc l'émission de Julien et toute la bande. Donc ce soir, on a Olivier, Sarah et Kevin avec moi.
Salut
dans le studio.
Salut.
Alors on est en train de parler de plein de trucs. On a parlé de santé. C'était juste avant avec Sarah. On a parlé de quoi encore? On a parlé du Nouvel An. On fait plein de choses dans cette émission. C'est génial. Et là on va continuer avec toi Kevin. On va parler un peu de technologie.
Ouais.
Tu peux nous rappeler juste le thème de ton sujet?
Le thème de mon sujet c'est l'impression 3D.
Alors oui, l'impression 3D.
Bah la dernière fois, je suis repassé à l'université et dans l'école où j'étais et j'ai discuté avec le type du Fab Lab. Donc le Fab Lab, c'est on fabrique des petits objets et il a une imprimante 3D et j'ai trouvé ça vraiment cool ce qu'il faisait. Il faisait des petites figurines et tout, mais bien détaillées. J'ai trouvé ça vraiment stylé, donc j'ai voulu faire un sujet là-dessus et vous parler un peu de l'impression 3D en général. Donc l'impression 3D, bah vous savez tous ce que c'est.
Déjà on va rappeler un peu pour ouais. Si on a des enfants qui nous écoutent par exemple, donc on a à mon avis les enfants connaissent, mais on a des imprimantes aujourd'hui où on peut imprimer des feuilles de papier, enfin on imprime sur du papier. Et là on a les imprimantes 3D ou pour
qui impriment des objets.
Qui impriment des objets.
Des voilà. Objets en relief en 3D que après on peut qui ont une multitude d'applications. Le procédé en gros c'est de la fabrication additive qu'on appelle, donc c'est à dire que couche après couche on va rajouter de la matière jusqu'à avoir un objet, l'objet qu'on veut. Donc concrètement c'est des imprimantes qui sont reliées à des ordinateurs. Dans l'ordinateur on a de la conception assistée par ordinateur, on conçoit notre objet et ensuite on le fait imprimer. Il y a différentes techniques. Souvent c'est au laser, c'est fait au laser. On peut avoir de la matière du métal, on peut imprimer des pièces en métal, on peut imprimer des pièces en céramique avec de la matière céramique. Le plus souvent c'est quand même du plastique, c'est des bobines de plastique qui sont chauffées au laser et donc voilà, couche après couche on rajoute pour avoir ce qu'on veut au final. Je voulais vous parler un peu aussi de l'historique parce qu'on en parle depuis peu de temps, c'est démocratisé en quelque sorte depuis peu de temps, mais ça existe depuis 1986.
De quoi, depuis 1986
le procédé existe depuis 1986, il a été inventé par Charles Hull. Et le premier modèle d'imprimante 3D qui était pas... c'était en 1988.
Donc, 1800 ou 1900?
1900.
Ah, c'est quand tu finis ça.
1980, donc 1986, création du procédé, et 1988, la première imprimante de série, la première imprimante 3D fonctionnelle. Après ça, en 1992, on a vraiment inventé le principe du couche par couche, où un laser repasse couche après couche. Et ensuite la première prothèse en 1999, elle a été créée, donc c'était une prothèse, c'était un bras je crois, il me semble bien. Et en 2002, on a imprimé le premier rein fonctionnel, donc il a été greffé sur quelqu'un. Alors je sais pas si, je sais pas comment s'est passée la greffe, je sais que des fois il y a des... Le corps, il faut qu'il... Je sais pas si le corps, il peut accepter des matières comme ça.
Attends, là, tu viens de dire qu'on peut imprimer en 3D un rein.
Ils ont imprimé un rat en 3D.
Un organe, quoi.
Ouais, corps humain. Mais ils impriment des organes en 3D. Ils impriment plein de choses en 3D.
Non.
Mais quand tu imprimes, tu imprimes en un seul, une seule fois tu...
Non, c'est alors. Pas des pièces que tu rajoutes non, après. Non, ça dépend de ce que tu fais. Je pense des choses aussi minutieuses, précise, aussi précises comme ça, c'est de l'assemblage.
D'accord.
Moi aussi, ça m'a paru vraiment. Je me suis dit, ils impriment des organes, vraiment, ça devient. Donc je sais pas comment fonctionne. Hein.
Quelque part, ça peut être bien. Si ça veut dire qu'on peut recréer des reins, c'est artificiel, mais ça peut peut-être sauver des vies. Je sais pas, docteur Sarah, qu'est-ce que vous en pensez ?
Que ça me paraît quand même étrange parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité avec le receveur.
Bah, moi aussi, ça m'a paru.
Peut-être des reins
qui est pas de Roger,
artificiels dans le sens comme une machine de dialyse. Je veux bien. Mais par contre, un rein que tu vas aller greffer pour suppléer la fonction.
Je pense que c'est plutôt une machine qui recycle en fait.
Le
c'est
sang,
ça, qui
oui.
recycle le sang.
Comme une machine
comme
de
une
dialyse.
Comme une sorte de dialyse, mais au final, ça existe déjà. Donc, ils ont la dialyse, ça existe, non ? Donc,
oui,
je vois pas l'intérêt de. Moi aussi, c'est. C'est les. Je sais plus, je vous donnerai les sources.
Ouais,
tu t'afficheras les sources.
Du coup, sur quelle matière on imprime ?
On peut imprimer sur du métal. On peut imprimer à partir de métal, donc avoir des pièces finales en métal, à partir de céramique. On peut imprimer à partir de sulfate de calcium. Voilà, il y a vraiment, on connaît le plastique, mais il y a plein d'autres choses il y a plein d'autres matières premières qui sont utilisées.
Ça veut dire, si on imprime un rein, parce que ça m'a marqué quand même cette histoire de rein, on imprime un rein sur du métal, enfin, grâce à du métal. C'est bizarre.
Bah, tu peux imprimer un rein en métal maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire d'un rein en métal ? Je sais pas trop, mais...
décoration dans un musée.
Mais si tu remets des reins awards, je sais pas, des awards.
En 2013, ils ont réussi à imprimer une arme à feu qui fonctionne.
Alors ça, c'est pas
forcément intelligent, mais pour te dire que ça peut vraiment être... tu peux imprimer, tu peux faire ce que tu veux, en fait.
C'est-à-dire on peut se cloner, peut-être. Enfin, c'est à la limite du clone, quoi. On pourrait s'auto-imprimer ? Je pourrais avoir un
Tu peux imprimer un Julien, oui. Il va être un peu silencieux, je pense.
Ah, il parlera pas ?
Bah non. À moins qu'il ait une pathologie bizarre, qu'il ait des troubles obsessionnels.
Voilà.
Mais bon, il y a de nombreuses applications qui sont possibles, aussi bien donc dans l'industrie aérospatiale. En fait, l'avantage de cette technique, c'est qu'ils arrivent à faire des pièces qui sont vraiment légères et ils peuvent les imprimer en une fois, comme tu disais, Olivier. Et ça permet d'avoir des pièces beaucoup plus résistantes. Dans l'aérospatiale, c'est beaucoup utilisé, dans l'aviation. Airbus, ils utilisent ces procédés pour des petites pattes de connexion qu'ils utilisent pour fixer des pièces l'une à l'autre. Et donc, ça permet d'avoir des pièces beaucoup plus légères, beaucoup plus aérées. Il y a quand même des inconvénients. C'est que dans le processus de fabrication, il peut y avoir des petites bulles d'air qui s'incrustent au moment où on superpose les couches.
Ouais.
De matière et du coup ça crée des faiblesses.
La technologie a ses limites. Hein.
Mais on est en train de les repousser de plus en plus et il y a des gens qui commencent maintenant à imprimer de façon industrielle. Donc pour l'industrie, des petits capuchons, des petites choses simples, mais voilà, ils ont c'est leur business.
Et vous, est-ce que vous verriez, c'est très dur à dire, est-ce que vous vous verriez
y a que des
avoir une imprimante comme ça chez vous
tâche,
qu'est-ce que vous imprimeriez avec cette imprimante ?
Moi déjà, je commencerais à imprimer le mode d'emploi déjà. pour comprendre.
Mais t'as pas besoin d'une imprimante 3D pour ça.
Ouais, mais moi l'informatique...
Donc tu peux l'imprimer et commencer à comprendre.
L'informatique et moi, ça fait deux. Alors...
moi, qu'est-ce que j'imprimerais ? J'imprimerais des instruments de musique, tiens.
Ah
oui, forcément.
Kevin, t'imprimerais des instruments de musique.
Bah ouais, c'est
par bien. Exemple.
Moi j'aime.
Par exemple, lequel ?
Je sais pas. Il faudrait voir la matière aussi parce que. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Une guitare ? On peut essayer de faire une guitare hein. Ou des cordes de guitare ? Ouais.
Toi, Docteur Sarah, qu'est-ce que t'imprimerais ?
J'imprimerais des couverts, j'imprimerais une table, j'imprimerais une chaise, je referais ma déco en fait.
Ouais, tu me diras au moins. Mais aussi, c'est quoi le coût ? Parce qu'on n'a pas le coût. Parce que là, c'est vrai qu'à première vue, tu dis, je refais toute la déco de chez moi.
L'imprimante en elle-même, elle coûte cher et la matière première aussi, elle est pas.
J'ai besoin d'un ciseau.
C'est encore. Ouais.
Mais est-ce que c'est plus rentable d'avoir l'imprimante chez soi ou d'aller l'acheter ?
Bah, ça dépend de. À mon avis, c'est plus rentable d'aller dans les Fab Labs, justement, qui ont le matériel et qui, eux, amortissent leur matériel avec tous les clients et de faire sur demande, en fait.
Olivier, t'allais dire un truc.
Non, j'allais dire que tu parlais de matière première, mais ouais. Et tu parlais d'une guitare, et on peut du coup imprimer sur du bois.
Je ne sais pas. Je.
Parce que après,
je ne sais pas.
Une guitare classique, par exemple.
Je sais pas. Sincèrement, ça m'étonnerait.
Ouais.
Ça m'étonnerait, mais peut-être. À creuser. Je chercherai.
Toi, Sarah, une autre idée d'un truc que t'aimerais bien imprimer en particulier, un truc de la vie de tous les jours, pas forcément de la déco, mais un truc qui te sert au quotidien, peut-être un stéthoscope ou je sais pas, un truc un peu.
J'en ai déjà un. Franchement, je trouve que on est trop matérialiste. Enfin, pourquoi on crée le besoin de l'objet, besoin d'avoir ça. J'ai déjà un stéthoscope, j'ai pas besoin d'en imprimer un autre.
Mais c'est peut-être pour les collectionneurs aussi.
Ouais. Par exemple, si tu casses ton rétroviseur de voiture, au lieu d'en racheter un autre, tu l'imprimes.
Ouais, mais tu l'imprimes, mais tu dois quand même racheter ton imprimante, ton machin. Tu dois quand même tout racheter. Donc au final, ça se trouve, ça te coûte le même prix, sauf que ça te coûte du temps aussi. C'est peut-être long à faire. Combien de temps ça prend? T'as une idée un peu de combien de temps on peut imprimer?
Nous, on avait fait un projet quand j'étais étudiant. C'était une petite perceuse manuelle. Avec un petit morceau qui coulissait et la perceuse tournait. Et on avait mis à peu près une heure pour imprimer, il y avait trois pièces. Ça met du temps. Ça met pas mal de temps. Après,
imagine
on peut
ceux
avoir
qui impriment
couleurs,
des maisons, parce qu'aujourd'hui c'est possible d'imprimer des maisons en.
Une maison 3D?
Oui, ça existe.
Mais déjà une voiture, déjà. Déjà une voiture, ça doit être long.
Mais qui roule? Et une maison, elle est étanche ou.
Ça c'est la question.
C'est une chose d'imprimer une maison, mais il faut pouvoir vivre dedans. C'est non, le but.
C'est le but de la maison, voilà.
Et tu peux pas mettre l'imprimante dedans parce que.
Julien habite dans une cabane.
Non, alors moi j'habite pas très loin là dans l'agglomération, pas très loin dans les Yvelines exactement. Et donc les Yvelines, on y reviendra tout à l'heure dans quelques minutes. Avant, on va s'écouter une petite chanson et juste après, Olivier, tu nous conteras. L'anecdote des Yvelines, parce que oui, les Yvelines avant ça s'appelait pas comme ça. Mais non. Comment ça s'appelait? Eh ben on le saura juste après, les princes chameaux et leur titre frangin.
Famille non plus, famille heureuse, ouais c'est ce qu'on dit.
Ouais c'est ce qu'on dit.
On passe surtout pour des malades. Le seul mot d'ordre c'est la connerie. Les pompes qui volent, la sœur qui est folle. Des mouches pédales dans la colle. Appelez la police, les pompiers, et même l'HP c'est des gogoles. Allez, alors quoi, on n'y peut rien. Et c'est pas nous qui avons choisi. 10 mètres carrés pour deux, c'est bien. Et c'est en bagarre que ça se finit. Les premières bières, les premiers pains. Et deux petits frères main dans la main. Et un peu de larmes, un peu de chagrin. Le temps que ça reparte et puis ça revient. Avant on se tapait sur la gueule. Maintenant on se la dérouille ensemble. On a un petit peu la même gueule. Et puis faut dire bah qu'on se ressemble. On est les rois de la Java. Des chouillards sans foi ni loi. Et la mère qui pleurait tout bas. Maintenant elle a son cœur qui bat. Un peu lassé du quartier, y a eu toutes ces belles envolées, toutes celles qui sont pas si loin et qui seront jamais terminées. Et on y va, on est parti, on nous aura pas en maudit. Crever la dalle à Montréal, dormir sur des cagettes pourries. Oh tabarnak! Alors quoi, tu pues des pieds? Bah moi non plus ça a pas changé. Et tu retournes encore tes chaussettes quand t'as la flemme de les laver. Et tu finis parfois carpette, c'est que t'étais trop fatigué. Toujours la tête à faire la fête pour leur dire que t'es pas prêt de crever. Avant on se tapait sur la gueule, maintenant on se la dérouille ensemble. On a un petit peu la même gueule et puis faut dire pas qu'on se ressemble. On est les rois de la Java, des chouillards sans foi ni loi. Et la mère qui pleurait tout bas, maintenant elle a son cœur qui boit. Parfois t'es loin, je repars, tu reviens. On se croise toujours le temps d'un refrain. On est peut-être pas tout le temps au mieux, mais bon c'est ça d'être amoureux. Mets ta gueule d'ange, ta veste à frange, c'est l'appel du large qui te démange. Pose ton cerveau, chausse tes sabots, et on fera la fête jusqu'au Gange. Allez. Allez, touche pas, et c'est la mienne. Et on va la noyer notre peine avant de partir une nouvelle fois. Quand on aura usé toute notre voix à Saint-Amour, Tarbes, Paname, on sera toujours plus que des potes. Des putains d'énervés de frangins, champion du monde qui pète, qui rote. Avant on se tapait sur la gueule, maintenant on se la dérouille ensemble. On a un petit peu la même gueule, et puis faut dire pas qu'on se ressemble. On est les rois de la Java, des chouillards sans foi ni loi. Et la mère qui pleurait tout bas, maintenant elle a son cœur qui bat. Avant on
se tapait sur la gueule. Maintenant on se la dérouille ensemble. On a un petit peu la même gueule. Et puis faut dire pas qu'on se ressemble. On est les rois de la Java, des chouillards sans foi ni loi. Et la mère qui pleurait tout bas, maintenant elle a son cœur qui vole.
De retour sur Marmite FM, c'était les Frangins Chameaux. Et oui, drôle de nom, mais c'est un groupe du coin. Voilà, c'était, pardon, les Princes Chameaux, excusez-moi, et le titre s'appelait Frangin. Voilà, si je dis pas vraiment les bonnes choses, on vous arriverait jamais à les retrouver. Allez, vous êtes dans la nouvelle émission de Marmite FM 88.4. C'est Julien, si vous venez d'arriver, et avec moi dans le studio, beaucoup d'animateurs, puisqu'on a ce soir le docteur Sarah.
Salut!
On a aussi Kevin, le roi de la technologie.
Salut!
Et également Olivier qui est en train de faire son baptême radiophonique.
Hello!
Et toi?
Anglais, je parle anglais, comme toi.
Oui, oh, mais merci, tu commences très très mal, attention. Et donc toi Olivier, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, tu vas nous parler, tu vas nous dire, tu vas nous donner en fait comment on appelait les Yvelines avant. Eh bien ça, voilà. On va le savoir. Mais juste avant ça, parce que oui c'est ton baptême, mais tu as quand même le droit à un jingle.
Ah, ça me rappelle des souvenirs, Julien.
Oui, je sais que ça te rappelle des souvenirs. Je l'ai fait pour ça. Ouais. Alors, les Yvelines. Dis-nous tout sur le fameux 7-8, parce qu'on est dans le 7-8.
7-8, d'ailleurs. Et c'est le seul héritage que conservent les Yvelines. Le seul héritage de l'ancien département.
C'est-à-dire le numéro 7-8,
oui.
78.
Oui, tout à fait. Parce qu'avant, l'ancien département, c'était le 78 aussi. Donc, d'après vous, comment s'appelait l'ancien département?
Comment s'appelait l'ancien département? Sarah, Kevin.
Alors, déjà, je ne savais pas qu'il y avait un ancien département.
Oui, parce que les Yvelines existent depuis 1968.
C'est-à-dire qu'avant, c'était un grand département.
Voilà, après, il y a eu un démembrement, c'était un très grand département. Et du coup, ben, il y a eu plein de petits départements comme les Hauts-de-Seine, les Saônes, voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a un lien peut-être avec le mot Yvelines ou pas?
Pas du tout.
Est-ce que ça s'appelait Paris, l'Île-de-France?
Non, pas du tout.
Je sais pas, Lutèce, non?
Lutèce.
J'ai pas d'idée, sincèrement.
Ça s'appelait, je vais vous le dire, ça s'appelait Seine-et-Oise.
Ah, mais oui!
Département de la Seine-et-Oise.
Seine-et-Oise, exactement. Oui, si, c'est vrai.
Voilà. C'était un grand département.
C'était un très, très grand département.
Dans
tout
le
à fait.
Nord-ouest.
Voilà, tout à fait. Après, il y a eu le Val d'Oise. C'est pour ça que maintenant, on a des départements 91, 92. Puis avant, il y avait que 90 départements.
D'accord.
Et maintenant, on arrive jusqu'à 95. Et on a Trabunros. Après, si on va dans les deux. Dom-tom, on ira à 100. Dans les dom, pardon. Alors, comment on est arrivé au nom des Yvelines? Parce qu'on l'a pas deviné
comment,
comme ça.
Qui l'a inventé, Yvelines, quoi. En gros, comment on est arrivé à...
Voilà, comment on est arrivé. Par exemple, le général de Gaulle, lui, il voulait appeler ce département Versailles. Donc, bon, Versailles, les habitants de Versailles seraient un peu inquiets de s'appeler... Les Versaillais, Versaillois, je ne sais pas comment on allait faire. Ensuite, il y a eu d'autres idées. Il y a Val-de-Seine, Vallée de Galie, Vallée de Seine.
Ah, la ferme de Galie qui est dans la région aussi,
voilà,
hein, d'ailleurs.
Tout à fait. Et c'est un poète yvelinois qui s'appelle Jehan Desprez, qui est toujours vivant, qui a 95 ans, qui est à l'origine de ce nom de département. Ça vient de l'ancienne forêt qui s'appelait la forêt d'Yvelines, au singulier, hein, j'insiste. Yvelines est au singulier dans la forêt d'Yvelines. Et pour vous expliquer un peu la forêt de Rambouillet, et ben c'est juste une relique de la forêt d'Yvelines, parce que la forêt d'Yvelines est immense.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein, peut-être, je ne sais pas, c'est une question ouverte, qu'on a plein de domaines forestiers à droite, à gauche. Donc, à plaisir, on a la forêt de Grignon, on
voilà,
a la forêt de Rambouillet.
Voilà, et qui faisait partie de la forêt d'Yvelines.
D'accord. Voilà.
Donc, à la base, c'était une énorme forêt qui...
Voilà, qui s'appelait forêt d'Yvelines, et on appelait aussi pays... d'Yvelines, mais toujours au singulier. Je dirais après pourquoi on a mis un
D'accord.
S. Et donc Yvelines, ça vient, alors attention, je vais vous parler de bas latin, un bas latin, ça vient du bas latin, Silva Aquilinale.
Silva, ça veut dire forêt.
et Aqui.
Ça, c'est l'eau.
Il y a l'eau.
Voilà, l'eau. Qui est devenue Ève, et en ancien français, Yves. Donc, si après, on met le suffixe diminutif et, on entend Yves, et.
Yvette. Sur Yvette.
Par exemple, et Yvette, c'est un petit ruisseau, c'est ouais, un cours d'eau qui prend sa source entre les Essarts-le-Roi et Lévis-Saint-Nom, pas loin d'ici.
Oui, et qui passe à Gif, parce que Gif sur Yvette.
Tout à fait. Et qui est donc un affluent de l'Orge, et l'Orge après qui va sur la Seine, bien sûr.
Et qui est aussi le nom de certaines grand-mères qui nous écoutent.
Oui, Yvette, tout à fait.
Je pensais que ça venait de là, Yveline, Yves, Yvette.
Ben, voilà.
Yvette. D'accord.
Et donc, bon, dans tout ce pays d'Yvelines, il y avait déjà des communes qui s'appelaient déjà Saint-Léger en Yvelines, Vieille Église en Yvelines, tout ça. Et depuis 1968, certaines communes ont rajouté le mot en Yvelines dans leur commune. C'est-à-dire Dampierre en Yvelines, en 1974, ils ont mis en Yvelines, donc Dampierre, ça s'appelait que Dampierre, ils ont mis en Yvelines ensuite.
D'accord.
Prunon en Yvelines, et là, tout récemment, Trappe en Yvelines. Et en 1970, on a eu Saint-Quentin en Yvelines, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, ils ont mis Yvelines dedans.
D'accord.
Savez-vous pourquoi on a mis un S dans Yvelines ? Parce que quand on dit forêt d'Yvelines, voilà, parce qu'avant, là, on dit les Yvelines, donc c'est facile. On met un S, parce que c'est un L. Mais bah, c'était Yvelines.
Je sais pas, comme les forêts, elles ont été découpées, ça faisait plein de petits.
Plein de petites parcelles. Îlots,
ouais, c'est ça, et du
plein
coup,
de petits îlots, plein de petits villages.
Non, c'est assez simple, mais bon, c'est le premier président du Conseil Général qui s'appelait Jean-Paul Palevski, c'est ça. Il argumente malicieusement que avec un S, Yvelines, ça fait plus riche. Ça faisait plus riche de mettre un S à Yvelines. Donc voilà, vous mettez un S à votre nom, bah vous faites plus riche.
Donc c'est juste du marketing alors.
Voilà, c'est juste ça.
D'accord.
Julien, Kevin's,
Sarah,
c'est juste
voilà.
Sarah, du marquis.
On fait plus riche maintenant. Allez, je vais vous. Allez, maintenant on va passer.
Une petite dernière anecdote, une petite dernière info.
Ouais.
Maintenant qu'on sait pourquoi on a un S, pourquoi ça s'appelle les Yvelines, d'où ça vient.
J'ai un mot qui m'a fait rire.
Ah, un mot,
ouais,
un mot.
Un mot qui m'a fait rire, je vais vous le dire. L'apopatodiafulatophobie.
L'apopatopatupat.
Ah, c'était bien parti pourtant.
L'apopatopatupatupat. Tu peux répéter la question.
L'apopatophobie.
L'apopatodiafulatophobie.
Vas-y, tente ta chance,
Sarah. L'apopatodialuphobie.
Ah, pas mal. Kevin, tente ta chance aussi.
Aide-moi, Sarah. Tu connaissais la fin.
Mais là, bon,
c'est quoi ça?
Voilà, déjà, vous n'arrivez pas à le dire. Mais d'après vous, c'est quoi?
Phobie, ça veut dire peur.
La peur, ouais.
La peau.
Apo.
C'est les apôtres.
La peur des apôtres.
Non, parce qu'entre temps, il n'y a pas tué Lulu et phobie.
Tu peux répéter le mot juste?
Juste le mot. Ouais.
L'apopatodiafulatophobie.
Donne-nous la réponse. Ah, ouais. C'est trop dur.
C'est une peur peu connue, hein.
Ah.
Ouais, c'est une peur peu connue. C'est la peur de, pour résumer, c'est la peur de la constipation.
Ah.
Ça, c'est.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a peur d'être constipé.
Mais je suis sûr.
Mais ça existe,
fréquent,
ça existe.
Oui, c'est fréquent.
Ça existe. Hein, ça a commencé.
Ça fait très mal. Hein.
Ah oui, c'est un jeune dans le 16e siècle qui son père était très pauvre, était agriculteur très pauvre, et il utilisait son fils pour, comme il pouvait pas s'acheter de porc à purin, il utilisait son fils à faire donc à déféquer.
Et comme
bah, du coup, il était traumatisé et il faisait donc il faisait la chose au moins 15-20 fois par jour.
Et ben bah, Olivier, merci pour cette anecdote. Grâce à cette anecdote.
Bon appétit pour ceux qui sont à table.
Je valide ton anecdote des Yvelines. Voilà, bon appétit pour ceux qui sont à table. Et celle-là, je ne la valide pas. Et oui, parce que c'est inadmissible.
Mais tu veux pas savoir les
On
symptômes
finit
pour les gens
sur l'anecdote mais, de la constipation.
Mais les symptômes, les symptômes pour les gens qui disent, qui écoutent, qui disent, mais attends, mais peut-être que je suis atteint.
Ah, tu les donneras, je pense, la prochaine fois.
D'accord.
Ou donne-nous un des symptômes déjà.
Eh ben, la facilité anormale à localiser les toilettes dans des endroits publics.
Ok, donc si vous avez ce symptôme-là, vous êtes apapatopaliphobe.
Voilà, bah ouais, c'est bien.
Ah, merci Olivier pour ces anecdotes, c'était top. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle émission sur Marmite FM 88.4. Merci Olivier, merci Sarah, merci Kevin.
Merci à vous.
On se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure. Donc ça sera tous les mercredis de 20h à 21h pour la nouvelle émission de Marmite FM. Et la semaine prochaine, on recevra Thomas, notre chroniqueur de 15 ans qui fera ses devoirs en direct à la radio. À la semaine prochaine, salut à tous.
Salut.